Il s'agit donc de personnages de l'Ancien Testament. C'est pourquoi le Joseph dont il est question, ce n'est pas l'époux de Marie, mais c'est Joseph, le fils de Jacob, dont l'histoire se trouve à partir du chapitre 37 du livre de la Genèse. À vrai dire, j'ai hésité à faire trois études sur Joseph, et on aurait eu largement de matière à le faire, ou prendre trois personnages différents. Et puis j'ai pensé que peut-être il valait mieux quand même prendre trois personnages différents, et les quelques points que je voudrais relever avec vous ce matin, vous pourrez les poursuivre vous-même plus tard. J'aimerais simplement, par ces trois portraits, essayer de vous donner envie de lire davantage encore l'Écriture, et notamment davantage l'Ancien Testament, qui, vous le savez, est quand même la partie de la Bible qu'on lit le moins. Or, pourtant, et c'est peut-être quand même pas pour rien, c'est de loin la partie la plus volumineuse de l'Écriture. Donc, nous voulons d'abord lire, nous ne lirons pas tout parce que je suppose, puisque nous sommes censés être un camp de responsables du GBU, que l'histoire de Joseph, vous la connaissez. On passerait notre heure d'ailleurs à lire les chapitres 37 à 50, mais on va peut-être quand même lire le début, les versets 2 à 8 du chapitre 37. Je pense que si nous demandions à un enfant de l'école du dimanche qui était Joseph, il nous répondrait en tout cas trois choses. Joseph, c'était un rapporteur, c'était un enfant gâté, et c'était un orgueilleux. Et c'est parfois l'image qu'on a, en tout cas, du Joseph d'avant l'Égypte, si je puis dire. Or, si nous regardons le texte d'un peu plus près, que voyons-nous ? C'est vrai que le texte dit que Joseph rapportait, c'est au verset 2, la fin du verset 2, à son père les mauvais propos de ses frères. Mais la question que je me pose avec vous, c'est est-ce que c'était du rapportage dans le sens scolaire de ce terme, ou bien est-ce que c'était chez Joseph un désir de partage avec son père? Joseph, le texte le précise, avait 17 ans. Sa mère était morte. L'ensevelissement de sa mère nous est rapporté juste avant. Il avait donc besoin d'être formé. À 17 ans, c'est l'âge des grandes décisions, c'est l'âge des grands bouleversements intérieurs, et il avait besoin de conseils. Et on verra d'ailleurs, deux chapitres plus loin, dans la force qu'a Joseph face à la femme de Potiphar, que justement il a été bien formé dans sa jeunesse. Et Joseph, c'est comme ça qu'en tout cas moi je le prends, ne veut pas être seul avec ses problèmes. Il veut partager avec son père. Avec qui d'autre le peut-il? Il ne peut pas avec sa mère. Et puis ses frères ne le veulent pas, le repoussent. La famille de Joseph autrefois avait été une famille unie, presque trop si je puis dire, quand on lit l'histoire. Quand les frères de Joseph vendent leur sœur qui a été outragée, ils font bloc là, d'une manière assez violente. La famille a été unie, mais elle ne l'est plus maintenant. Il y a Joseph d'un côté, et puis aussi même vis-à-vis de Jacob, les frères de Joseph ont pris leur distance. Et ils ont comme un peu coupé les ponts avec lui. On le verra dans ce même chapitre, comment ils n'hésitent pas à mentir ouvertement à leur père, à simuler un accident tragique de Joseph, soi-disant mangé par une bête féroce. Ils lui mentent cyniquement, ils montrent une machination pour le tromper, parce que ce qui prouve bien que les liens entre Jacob et ses frères, ses fils aînés, étaient rompus, étaient brisés. Ils venaient encore à la maison, comme au restaurant, mais c'était terminé. Et alors Joseph lui ne veut pas cela. Lui, il a besoin d'un partage. Il a besoin de conseils. Et s'il rapporte à Joseph les mauvais propos de ses frères, c'est peut-être tout simplement pour demander à son père, mais voilà ce que j'ai entendu, qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce qu'il faut que je croie? Et moi je pense que nos vies de famille pourraient être transformées si dans nos familles, il y avait du partage. C'est ce qu'un chrétien anglais faisait par exemple, c'était il y a bien des années, au début de la télévision. Alors il n'avait pas voulu la télévision, et pour finir, ses enfants l'ont plus ou moins forcé. Alors il a acheté la télévision, mais alors il regardait certaines émissions avec ses enfants, puis ils en discutaient. C'est un avocat, alors il faisait un procès de telle et telle émission, enfin toutes les émissions, il disait voilà, qui est pour la défense, qui est pour le procureur, et il faisait une sorte de procès de l'émission pour éduquer ses enfants, il partage avec ses enfants. De nos jours, quand on est jeune et qu'on a 17 ans comme Joseph, on a souvent honte de dire à son père, voilà ce que j'ai entendu à l'université, voilà ce que j'ai entendu au lycée, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut croire de cela? Voilà cette fille, elle me semble vachement bien, qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'elle serait pour moi? Mais je crois que c'est ça que faisait Joseph. Ce partage familial avec son père. C'est un des grands besoins de notre temps. C'est un des grands drames d'ailleurs, qu'il n'y ait pas ce partage. Et les grands ensembles, les grands immeubles sont justement des grands machins qui tuent tout sens du partage. Je pense à ce que me disait l'ancien directeur de la Main Tendue à Lausanne, une vieille dame qui avait vécu au centre de la ville, dans un vieil immeuble ou une vieille maison très rustique, où il n'y avait pas de confort, mais où elle connaissait tout le monde, dans le quartier. Puis on l'a déménagé pour raison de salubrité dans un grand immeuble tout neuf de la périphérie. Elle disait, là je connais personne. Dans l'ascenseur, on fait juste un petit signe poli de la tête, et puis c'est tout. Et elle était désespérée, c'est pour ça qu'elle téléphonait à la Main Tendue, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai plus de dialogue, j'ai plus de partage, je connais rien, je suis tout seul, je meurs de solitude. Et jusque dans nos familles, ça peut être le cas. Entre les frères, entre les enfants et les parents, parfois entre les parents d'ailleurs. Je vous ai parlé hier d'un camp de famille, mais c'est un des grands thèmes de nos camps de famille, c'est d'ailleurs la troisième année déjà qu'on fait cela, c'est donner des moments entre les conjoints pour se parler. Cette année, on a étudié le Cantique des Cantiques. C'est un beau thème pour un camp de famille et de couple. Alors c'est tout le Cantique des Cantiques, en fait, plus du tiers du Cantique des Cantiques, c'est une description de la bien-aimée ou du bien-aimé. Tu es belle, mon ami, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres qui descend de Galaad, etc. Alors je leur ai dit, voyez des expressions, qui d'entre vous a pensé dire à sa femme, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres? Et bien alors vous allez... Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir, etc. Il y a des expressions qui sont fantastiques. Et alors on leur a fait écrire une lettre d'amour. Bon, pas à lire publiquement, bien sûr, mais pour justement qu'il y ait un dialogue sur un plan affectif et aussi sur d'autres plans. Parce que jusque dans le couple sont des choses qui manquent. Et des fois, une des base de Joseph, c'est que justement, il n'a pas voulu vivre tout seul avec ses problèmes. Il a rapporté à son père, non pas dans le sens qu'un élève le fait pour miner ses camarades, mais parce que ça lui posait des problèmes et qu'il avait besoin des conseils d'un aîné, en l'occurrence son propre père. Oui, je pense que nos vies de famille seraient changées si on savait partager. Je pense que nos vies d'église aussi seraient changées si on savait partager dans l'église, dans nos communautés, dans nos groupes. Et c'est frappant de voir que jusque dans des groupes qui apparemment sont très liés, on partage peu nos problèmes profonds. Je pense à une certaine communauté que j'ai connue très intimement. On se voyait chaque semaine. C'est qu'au bout de 3 ans qu'un d'entre nous a apporté, et encore pas à tout le monde, son problème profond qu'il portait depuis des années, qu'il n'avait jamais osé dire, et qui le minait. Pourtant, on se réunissait toutes les semaines pour la prière. Alors, je crois qu'il y a d'ailleurs, quand on lit les Actes des Apôtres, ils avaient tout en commun. C'est leur bien, mais c'est aussi, je dirais, leur problème qu'on apprend à partager, à porter les fardeaux les uns des autres. Enfin, combien de fois ça vient dans le Nouveau Testament? Et puis ensuite, Joseph orgueilleux. Est-ce que vraiment Joseph était orgueilleux? C'est comme ça que ses frères l'estiment, parce qu'il raconte ses rêves. D'abord, il n'a pas fait exprès d'avoir ses rêves. Et puis, est-ce que justement, le fait de raconter ses rêves n'est pas chez Joseph, ne part pas chez Joseph du même besoin de partager avec sa famille proche ce qui l'a quand même frappé, parce qu'il se rend compte que ce rêve qu'il a eu, c'est pas simplement parce qu'il a eu une digestion difficile, mais que Dieu voulait lui parler. Alors il avait besoin du contrôle de son père et de ses frères. Et je crois que c'est très important. Les rêves, d'ailleurs, vont, vous le savez bien, jouer dans la vie de Joseph un rôle très important. Il va en avoir, puis ensuite il va en interpréter, les rêves du panetier des chansons dans la prison, puis ensuite le rêve Pharaon lui-même, la fameuse histoire des vaches maigres et des vaches grasses. Et d'abord, Joseph, quand il a lui-même, il a besoin du contrôle de son père et de ses frères. Et je pense qu'aujourd'hui, ça aussi c'est très important, dans nos communautés, surtout dans une communauté où il se passe quelque chose, dans le renouveau du Saint-Esprit actuel, où on redécouvre les dons du Saint-Esprit, parce qu'en fait il s'agit ici d'une sorte de prophétie visuelle qu'a Joseph, l'importance du contrôle de la parole de Dieu et de la communauté. Je pense qu'il ne s'agit pas d'abord, chez Joseph, toute la suite du récit montre qu'il n'est pas un orgueilleux, montre ce besoin qu'il a de partage, de communication, du contrôle des autres et de la communauté. Il se fait d'ailleurs doucher la première fois. Mais il a un deuxième rêve, il le partage encore. Il est incompris, mais il continue quand même, parce qu'il veut vivre dans la transparence avec sa famille, avec sa communauté toute proche. Et moi, je crois que c'est une des caractéristiques de la foi. Dans la transparence et dans l'amour, par conséquent. Et puis enfin, Joseph est-il un enfant gâté parce que son père lui fait une tunique de plusieurs couleurs? Et le texte semble donner raison quand même à cette interprétation, puisque le texte précise au verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il y avait donc du favoritisme dans la famille. Joseph était le chouchou, comme on dit. Et encore, est-ce que c'est vraiment ça? Il est bien évident que, de par ce désir qu'avait Joseph de partager avec ses frères, de partager avec son père notamment, des liens particuliers s'étaient tissés entre son père et lui. Une communion toute particulière. Et alors, cette tunique de plusieurs couleurs, signe précisément de la joie qu'avait son père avec ce fils-là. Et ce signe de cette communion particulière. Mais Joseph va pas être un enfant gâté, la preuve. C'est que son père lui demande une chose bien difficile. Quand on voit un peu plus loin, verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Joseph est donc, enfin Jacob envoie son fils aller trouver ses frères à Sichem, puis ensuite ils avaient quitté Sichem, ils ont été jusqu'à Dothan, ce qui représentait depuis l'endroit où se trouvait Jacob, 120 kilomètres, que Joseph, à 17 ans, va franchir à pied, tout seul. Et il y avait des dangers de bêtes féroces à cette époque. La preuve, c'est que ils vont faire croire, ses frères, qu'il a effectivement été mangé par une bête féroce. Et Jacob le croira, parce que ça c'était courant à cette époque. Il va affronter ses dangers tout seul. Et puis, il sait très bien que ses frères le haïssaient. Ils se sont moqués de lui. Il pouvait très bien se dire, et Jacob aussi, maintenant je ne suis pas là pour le protéger, ils vont l'embêter. Et Jacob l'envoie quand même, parce qu'il a bel et bien le souci de ses autres frères, de ses autres fils. Jacob, il a une intensité de relation avec Joseph plus grande, bien sûr, mais il aime aussi ses autres enfants. Et il n'hésite pas, et nous voyons d'ailleurs là aussi, hein, en Joseph un type du Christ, il n'hésite pas par amour pour les autres à envoyer son fils bien-aimé pour se renseigner, pour s'occuper d'eux. Et Joseph d'ailleurs va se perdre, le texte le dit, dans ce long trajet. Donc, Jacob ne le gâte pas tellement que ça, il lui demande un ordre difficile, plus difficile qu'à ses autres frères, parce que les autres au moins, ils étaient 10 pour aller paître les troupeaux. Joseph, lui, il est tout seul. Et puis, à l'ouïe de cet ordre de Jacob, Joseph, comme un enfant gâté qu'il est censé être, ne pique pas sa crise. Il ne se roule pas par terre en disant « Non, je n'irai pas. » Non. Il dit à son père « Me voici. » Et il part. Et il y va sans rechigner, sans rouspéter. Bien loin d'être un enfant gâté, moi je crois que Joseph est un enfant obéissant à son père. Et d'ailleurs ça va ensemble, partage et obéissant. Parce qu'il a compris dans ce partage l'amour de son père, les conseils de son père, qu'alors il entre dans cette voie-là. Et il me semble que, et c'est la base de la, je dirais, de la foi de Joseph et de son attitude ultérieure, Joseph donc sera un homme qui aime partager, un homme qui vit dans l'amour et un homme qui vit dans l'obéissance. Nous allons voir les conséquences de cela dans sa vie. Ensuite vient donc le mauvais sort qu'on lui fait. Il est vendu en Égypte. Puis il arrive en Égypte. Et en Égypte, il aura une première tentation avec ce fameux chapitre 39, la femme de Potiphar. Et nous verrons, je dirais, les conséquences de sa foi, ou sa foi agissante dans trois directions, dans trois domaines. Tout d'abord, un domaine personnel, qui est précisément un domaine affectif, sexuel, puis un domaine familial, hein, son attitude avec ses frères, puis dans la société, comment il deviendra premier ministre. Et ce qui me frappe, je pense que vous l'avez remarqué, c'est que entre Joseph vendu par ses frères, au chapitre 37, et Joseph et la femme de Potiphar, au chapitre 39, vient un chapitre 38, un peu scabreux, Judas et Tamar, c'est l'histoire d'un frère de Joseph, Judas, qui couche avec sa belle-fille, qui était interdit très sévèrement en Israël, et il y a toute une histoire assez sordide qui est racontée. On pourrait presque se demander pourquoi, sinon que l'évangile de Matthieu nous raconte dans la généalogie de Jésus que Jésus descend de cette femme Tamar, l'incestueuse, montrant par là aussi qu'il y a toute une portée messianique dans tous ces textes. Mais alors, quand même, quand on lit la fin du chapitre 37 au verset 36, les magnanites le vont dire en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Et ensuite, il y a une sorte de grande parenthèse qui est ce chapitre 38, Judas et Tamar. Puis au chapitre 39, on revient là où on était resté au chapitre 37, on fit descendre Joseph en Égypte. Ce qui a fait dire à beaucoup de commentateurs que bien sûr c'était une autre tradition, que c'était une glosse qu'on avait mis là et que ce que ça, vous voyez bien tout ce qu'on peut dire sur un récit comme cela, ça n'a rien à faire dans le cycle des traditions de Joseph, etc. Moi je trouve au contraire extrêmement intéressant que ce soit mis là. Et pourquoi? Bien, je crois que nous voyons dans ces deux récits les conséquences de l'attitude des frères de Joseph et les conséquences de l'attitude de Joseph dans leur vie personnelle. Il nous est dit au chapitre 38, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Voilà Judas qui fait le contraire de Joseph. Lui, il ne veut pas le partage, au contraire, il vit sa vie à lui, il fait sa secte, si je puis dire, il va aller vivre tout seul, et puis zut pour mes frères, zut pour mon père, zut pour tout le monde, je vis tout seul. Or, Judas, pourtant, et la suite le prouvera, était à certains égards le meilleur des fils de Jacob, à part Joseph, bien sûr, c'est lui qui, au moment de la réconciliation, se portera garant de la vie de Benjamin. Et il me semble que Judas est là comme le porte-parole ou le porte-acte plutôt de tous les frères de Joseph. Et leur manière de vivre aura comme conséquence précisément la ruine de leur famille. Les deux fils de Judas meurent, enfin il y a des histoires sordides encore une fois, et Judas lui-même sombre dans l'immoralité. Alors que Joseph, placé devant une situation encore bien plus difficile que celle de Judas, lui va rester fidèle, pur, éloigné du mal. Et il me semble que nous avons dans ces chapitres 38 et 39 deux portraits aussi opposés que possible, justement pour montrer les conséquences de notre foi ou de notre non-foi, notre obéissance ou notre désobéissance, notre partage ou notre volonté d'être solitaire. Joseph, lui, reste fidèle, reste fort dans la tentation. Après ces choses, il arriva que la femme, c'est donc au chapitre 39, verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal ?» Quand on a 17 ans, c'était l'âge à laquelle il y avait peut-être un peu plus, hein, puisqu'il était depuis un certain temps dans la maison de Potiphar, et qu'on est un homme qui a un cœur qui bat et une chair qui a des appétits, comme on dit, et qu'une femme se livre à vous comme ça, qui devait certainement être une belle femme, et la femme son maître, on dit, ben, c'est une bonne aubaine à prendre. Joseph, lui, il reste ferme. Il a appris chez son père à être obéissant dans des circonstances difficiles, quand on lui demandait l'aide d'aller tout seul à pied à 120 km. Il a appris parce qu'il a partagé avec son père la différence entre le bien et le mal. Il n'a pas écouté ses copains, ses frères, mais ce que son père avait reçu de son père, qu'il avait reçu d'Abraham, son père, qu'il avait reçu de Dieu. Et alors, au moment de la tentation, et la première tentation qui vient, c'est celle-là, il sait être fort. Alors, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. C'est aussi des tentations qui nous guettent, celle-là. Et encore bien plus que du temps de Joseph. Des fois, c'est là aussi que le chrétien, il sait être fort. Mon collègue et ami Maurice Ray dit toujours que le diable met 3 pots de bananes, jette 3 pots de bananes sous les pas des serviteurs de Dieu. Les femmes, l'argent, l'orgueil spirituel. Si vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés, c'est pour une de ces 3 raisons. La première peau de banane sous les pieds de Joseph, c'est ça. Mais Joseph, il a su tenir. Et puis, si on va un peu plus loin, on ne s'y arrêtera pas longtemps parce que c'est la partie la plus connue de l'histoire de Joseph, c'est la réconciliation avec ses frères, dont l'histoire nous est ensuite racontée à partir du chapitre 42, comment les frères poussés par la famine arrivent en Égypte, comment Joseph les reconnaît, mais lui, eux ne le reconnaissent pas. Là aussi, les conséquences de sa foi dans le contexte familial, il apprend à personnellement refuser le mal, puis l'apprend vis-à-vis de ses frères à pardonner. C'est même tel que jusqu'à la fin, ses frères n'y croiront pas vraiment. Puisqu'après la mort de leur père Jacob, ils viennent encore supplier Joseph. Est-ce que tu nous pardonnes vraiment? Or, Joseph pardonne royalement. Sans condition. Oui, il veut s'assurer, c'est pourquoi il y a toute une sorte de drame, de suspense. Il veut s'assurer que les frères ont changé. Mais quand il voit que les conditions du pardon sont là, alors il pardonne totalement, royalement. Et au contraire, il donne à ses frères beaucoup plus que ce qu'il pouvait espérer. Il les fait banqueter, il les met dans la partie la plus riche du pays. Et il n'y a pas de rancune chez eux. Or, il me semble qu'un des plus grands obstacles à notre vie chrétienne, à l'épanouissement de notre vie chrétienne, à la puissance aussi de notre vie chrétienne, c'est l'amertume, le refus d'un pardon total, ce que la Bible appelle les racines d'amertume. Enfin, c'est une des choses que le Seigneur doit ôter de nos cœurs. Et nous avons souvent, et les racines d'amertume qui sont les plus profondes, parfois c'est justement dans nos familles, pour des questions d'héritage, pour des questions de mariage, pour des questions que sais-je, alors il y a des rancunes qui sont là et qui perdurent parfois par-delà les générations. Joseph, lui, il a tout oublié. Il a tout pardonné. Sa foi lui donne la force de pardonner entièrement. Je crois que c'est là qu'on reconnaît la vraie force. Taper sur son frère, il faut être fort pour ça. Mais pardonner, plus qu'Auguste, là je suis maître de moi comme de l'univers, mais pardonner de manière totale, royale et pleine. Voilà ce que Joseph lui donne. Et je crois que dans nos vies chrétiennes aussi, elles pourraient être transformées. Si toute racine d'amertume est enlevée, est déposée au pied du Christ. Alors, il y a là, me semble-t-il, 2 conséquences très précises. La première, dans sa vie personnelle, face à la tentation, et face justement à la tentation sexuelle, la tentation de l'amour, à laquelle nous sommes tous confrontés, parce qu'on ne peut pas vivre dans ce monde d'aujourd'hui sans être confronté avec cette tentation-là. Et puis une conséquence de sa foi, c'est sa faculté de pardon, sa faculté d'accueil, sa faculté d'oublier tout ce qui lui a été fait, et même de le prendre en bonne part, quand il dit à ses frères, quand il les reconnaît, ne regrettez rien. Dieu a suscité cela, c'est Dieu qui a fait cela, pour que je puisse vous sauver la vie aujourd'hui. Il reprend tout cela comme venant de Dieu, louant Dieu pour tout ce qui est arrivé. Si nous savions transformer nos racines d'amertume en sujet de louange, je crois que notre vie chrétienne aurait une puissance, qui est la puissance même de celle de Joseph. Et puis, troisième conséquence, nous allons lire le texte au chapitre 47. C'est dans l'impact qu'aura Joseph sur la société de son temps. Vous pourrez lire 47 à partir du verset 13. Voilà l'action de Joseph à la tête de l'État. Et nous avons là l'exemple d'un homme engagé sociopolitiquement. Mais là encore, à première vue, on pourrait dire que c'est un affreux exploiteur, ce Joseph. Il prend toutes les terres au peuple, les donne à Pharaon et profite de la famine pour cela. Je pense qu'une première remarque qu'on peut faire, c'est que nous ne trouvons pas au XXe siècle, mais plutôt au XXe siècle avant Jésus-Christ, et qu'alors il faut aussi reporter les choses dans leur temps. Mais là encore, on pourrait voir les choses tout à fait différemment. Est-ce qu'on ne peut pas voir en Joseph une sorte, j'exagère peut-être un peu, mais une sorte de prophète du socialisme ? Les terres appartiennent à l'État. Et il fait acheter par Pharaon, c'est-à-dire par l'État, toutes les terres du pays. Parce que, justement, il va supprimer, c'est vrai, la propriété privée. C'est assez moderne, je dirais. Et que dans ce sens-là, Joseph est un homme assez révolutionnaire dans son action politique. D'une société féodale, et même pré-féodale, il va en faire une société étatisée. Ça sera la seule manière d'ailleurs de pouvoir faire dans ce pays d'Égypte des plans généraux, des plans quinquennaux ou septennaux. Et c'était particulièrement important en Égypte, ce qui, vous savez, d'après Hérodote, je crois, disait que l'Égypte est un cadeau du Nil. C'était très important de planifier toutes les cultures dans ce pays qui ne vivait que des inondations du Nil. Et que cesse l'individualisme forcené qui régnait jusqu'à présent, et Joseph va donc créer une société où on va pouvoir planifier la production. Je trouve qu'il y a là au contraire quelque chose d'extrêmement moderne et de pas du tout archaïque ni d'exploiteur, et il fera tout ça pour le bien du peuple. D'ailleurs, les hommes lui disent « Tu nous sauves la vie !» Oui, mais il prélève un impôt d'un cinquième, donc 20%. Vous voyez, c'est quand même assez considérable. Mais là encore, à cette époque, ce n'était pas du tout. Nous avons des documents d'Éléphantine, notamment, qui est une ville d'Égypte, où, dans cette ville, on prélevait des impôts qui allaient jusqu'à 60%. Et la contribution que Joseph demande est une contribution tout à fait raisonnable. Il n'exploite pas du tout, il planifie. Alors, bien sûr, c'est ce qui se passera au temps de l'Exode. Tout étant maintenant entre les mains de l'État, il suffit que vienne un mauvais pharaon pour que tout soit chamboulé. Mais ce que Joseph fait, c'est vraiment dans un but de sage administration du bien du peuple, du bien du pharaon, bien sûr, mais aussi du bien du pays tout entier. Il fait des, il y avait 7 ans qu'il faisait, il y a eu 7 ans d'abondance, puis 7 ans de famine, donc il fait des plans là, tout par 7 ans pour que l'ensemble du pays d'Égypte puisse vivre. Et il construit des tas de choses. C'est justement, c'était la seule manière, c'est parce que, justement, tout était entre les mains de Pharaon que le pays a pu surnager au moment de la famine. Parce que l'État avait prélevé déjà. Si on avait laissé pendant ces 7 ans les paysans se goberger et ne pas prévoir ce qui arrivait plus tard, eh bien, toute l'Égypte aurait été victime de la famine, comme les autres peuples. Mais c'est parce que Joseph avait justement centralisé que le pays a pu survivre. Et on a bien compris qu'il en était responsable. Et le peuple lui a dit « Nous sauve la vie » et le pharaon l'a gardé comme son ministre tout-puissant. Donc, je ne crois pas du tout que Joseph profite de sa situation pour pressurer le peuple, mais au contraire, pour prévoir comme un sage administrateur qu'est-ce qu'il y a de bien dans la situation dans laquelle il était pour le pays. Et tout cela, Joseph le fait dans la paix, oui, il fait une sorte de révolution dans le pays, une révolution socio-économique, mais il le fait dans la paix, sans jamais cacher qui il est, ce qu'il croit. La première fois, et c'est un drôle de courage, la première fois qu'il apparaît devant Pharaon, quand on le sort de prison pour expliquer le rêve qu'a fait Pharaon, chapitre 41, verset 14, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, etc. Pharaon lui dit, est-ce que tu peux expliquer le songe? Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Première parole que Joseph dit à Pharaon, c'est demande pour témoigner de sa foi. Et jamais il ne cachera sa foi. Jamais il ne cachera non plus ses origines, qui était pourtant un peu humiliante. Lui, le ministre tout-puissant de cette société sophistiquée égyptienne, qui clame, Ubi et Orbi, voilà mes frères, voilà mon père, qui devait être de pauvres nomades sur leurs chameaux, qui arrivent comme ça et qui ont dû faire jaser pas mal la cour. Mais lui, il le dit ouvertement, voilà ce qui est ma famille, voilà quelle est ma foi. Et il n'y a chez lui aucune combine politique. Tout ce qu'il fait, il le fait clairement, ouvertement. Il y a un engagement, oui, sociopolitique très grand chez Joseph. Il ne peut pas être plus grand, il ne peut pas monter plus haut, puisque il ne peut pas être pharaon. Mais il le fait dans la clarté, là encore une fois, hein, dans le partage, dans la transparence, disant qui il est. Parce qu'il a appris ça depuis tout petit. Je pense qu'il y a là aussi, dans l'action de Joseph, un modèle pour l'engagement des chrétiens aujourd'hui dans la société. Et puis enfin, je veux dire quand même encore quelques mots sur le dernier chapitre de la Genèse. Il me semble voir encore une ou deux choses intéressantes sur la vie de Joseph. Ce chapitre, au fond, se termine par deux morts, la mort de Jacob et puis ensuite la mort de Joseph. Et on pourrait lire le verset 7 et le verset 24 à 25. Voilà, toute cette histoire de Jacob et de Joseph se termine d'une part par cette monstre qu'on voit funèbre, qui remonte d'Égypte vers Canaan avec Joseph à la tête. Et on peut se demander pourquoi tout se termine comme ça par cet enterrement grandiose et puis ensuite par cette promesse que Joseph fait faire à ses frères, vous remonterez dans ce pays. qui est le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là aussi, je trouve assez remarquable Joseph qui avait été élevé jusqu'à l'âge de 17 ans dans cette partie très aride de la Palestine, comme un semi-nomade, puis qui entre ensuite à la cour de Pharaon, qui devient ministre tout-puissant. Il n'est pas ébloui par cette situation. Il ne désire même pas que ses fils s'y installent, s'y descendent en disant, ben maintenant, enfin, on a quitté la misère et les aléas, les intempéries, on est maintenant sûr en Égypte, on est arrivé financièrement, socialement, on va maintenant s'installer. Non, arriver au fait des honneurs et à la fin de sa vie, c'est ses dernières paroles, c'est son testament. Vous n'allez pas rester ici, hein. Vous allez garder les yeux fixés sur la promesse qui a été faite à nos pères. Et je crois que là aussi c'est très important. Personne dans l'Ancien Testament, aucun des personnages bibliques, à part Daniel peut-être, n'a été aussi engagé sociopolitiquement dans un monde non chrétien, non biblique. Personne n'a été aussi engagé dans l'action, personne n'a eu aussi les yeux aussi donc fixés sur la promesse que Dieu avait faite. Je crois que là aussi c'est extrêmement important. Joseph, il n'est pas simplement un homme engagé sur le plan humain, c'est un homme qui sait que Dieu interviendra. Et il ne veut pas qu'on oublie cette promesse. Et il fait jurer à ses frères. Et d'ailleurs, l'Exode montre qu'au moment de la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël a pris les os de Joseph pour les ramener dans le pays de Canaan. Et alors je pense que cet homme engagé, dans la foi engagé dans son temps, bien oui, a toute une série d'exemples pour nous. D'abord dans notre vie personnelle et dans notre vie morale, dans notre vie familiale et dans notre vie professionnelle. Sur ces trois aspects, Joseph, nous le voyons agir. Parce que, dès son enfance, et dans sa famille, et dans le groupe, dans la communauté qui était la sienne, il a su obéir, il a su partager, il a su écouter Dieu et les frères, même quand ce n'était pas facile. Et puis, il a su surtout, et c'est pas pour rien que ça nous est dit en dernier, avoir les yeux fixés vers ce qui était encore devant lui. Toute son action en Égypte, c'est l'action avant-dernière. Son action dernière, c'est ce que Dieu va faire par la promesse qu'il accomplira et qui, bien sûr, s'accomplira en Jésus-Christ. Pour nous aussi, hein, tout engagement, quel qu'il soit, tout engagement sociopolitique que nous pourrions prendre, ne peut être qu'un engagement avant-dernier. La réalité dernière, c'est l'avènement du royaume de Dieu par la venue du Christ. Et c'est pas pour rien que la déclaration de Lausanne, par exemple, à l'issue du congrès d'évangélisation de l'an dernier, a beaucoup parlé justement de l'engagement du chrétien dans ce monde, mais termine par l'avènement du Christ, qui est l'espérance ultime et qui est la seule manière pour notre monde d'avoir une espérance définitive. Et c'est aussi ce que nous montre Joseph. C'est par cela que se termine la Genèse. Et puis ensuite, d'ailleurs, on saute tout de suite à l'Exode, où on voit le pas suivant de cette promesse où le peuple revient d'Égypte en Canaan, et qui est une figure, bien sûr, de la délivrance opérée par le Christ. Voilà quelques je dirais, enseignement que je voulais partager avec vous concernant Joseph.